Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand évincer les voisins du cabaret La Tulipe était le contrat du siècle. Un texte de Malia Kunku, paru le 27 septembre 2024 dans Urbania. Les regrets d'un agent ayant supervisé l'expulsion des locataires de Pierre-Yves Baudouin. Ces personnes évincées par Pierre-Yves Baudouin en juillet 2016, ça faisait plusieurs années que je les cherchais sans jamais les retrouver, me confie Andrew dès la première minute de notre entretien. D'emblée, on le sent se décharger d'un poids qui appartenait à sa vie d'avant. Celle où il était un agent de sécurité privé supervisant l'expulsion des locataires du bâtiment adjacent au cabaret La Tulipe. En une matinée, la douzaine de résidents s'étaient retrouvés à la rue, chassés de ce havre surnommé Coop sur Généreux depuis des années, jusqu'à ce qu'un nouveau propriétaire, Pierre-Yves Baudouin, ne rachète la bâtisse entière. S'ensuivront des années de bouteilles à la mer qu'Andrew lancera sur les réseaux sociaux, caressant chaque fois l'espoir de savoir ce que ses locataires expulsés sont devenus. Le but n'était pas de m'expliquer, mais bien de m'excuser auprès de ces personnes, précise-t-il. Elles ont perdu leur logement parce que je ne voulais pas perdre mon emploi. L'ennemi public numéro un. L'ironie du sort veut que ce soit justement l'un des anciens locataires de la coop, Pascal Wynn, qui me mette en contact avec Andrew cette semaine. Entre les torches et les fourches d'un groupe Facebook formé de 85 membres révoltés répondant au doux nom de « Mange de la marde, Pierre-Yves Baudouin », c'est lui qui a vu et répondu à mon appel à témoignage. 4 jours et 2200 nouvelles têtes plus tard, ce même groupe est renommé « Du bruit pour la tulipe que la culture ne se taise jamais ». L'objet commun de leur indignation, lui, demeure le même. La fermeture abrupte et indéfinie du cabaret annoncé récemment après plus de 100 ans de bons et loyaux services. Y avait-il vraiment une autre option? La veille, un jugement de la cour d'appel ordonnait à l'établissement de cesser l'émission de bruit par des appareils sonores. En réponse, plus de 700 personnes se sont donné rendez-vous 4 jours plus tard devant le cabaret pour émettre du bruit par tout appareil sonore à portée de main, casserole, vuvuzela, poêle, trompette, violon, saxophone, klaxon de vélo, maracas et percussions synchronisées, gracieuseté du groupe Terrato. Un seul regret, d'après les quelques bribes de conversations environnantes. L'absence de ce fameux Pierre-Yves Baudouin, pourtant à l'origine de tout ce chaos organisé. Après tout, à peine Pascal et ses anciens locataires évincés, le propriétaire de l'immeuble mitoyen au cabaret n'a cessé de se plaindre, année après année, de nuisances sonores qu'il affirmait provenir de la salle de spectacle. Nous, quand on était là, on n'a jamais entendu aucun bruit, affirme Pascal. Les membres de la coop sur Généreux avaient même l'habitude d'organiser leur propre cabaret miniature. Pour ne rien arranger, on apprend que la ville de Montréal avait octroyé à Baudouin un permis résidentiel par erreur. Une erreur qui lui permettait de transformer ce bâtiment commercial en un espace d'habitation et de réclamer qu'une institution culturelle centenaire comme le cabaret La Tulipe se taise le temps de ses 8 heures de sommeil réparateur. En dehors de ce tableau, peu d'informations sur Pierre-Yves Baudouin sont disponibles et avérées. Depuis peu, Internet s'est donc transformé en un nid à spéculation. Chaque internaute s'improvisant Sherlock Holmes, y compris moi-même, aidé de mes petites connaissances de base en OSINT. Est-il dans la quarantaine? Possède-t-il un chalet en Estrie? Roule-t-il dans une Ford Mustang blanche ou bien dans une Corvette bleue? Possède-t-il une dizaine d'appartements sur le plateau Mont-Royal? De quoi a-t-il l'air? Aucun moyen de le vérifier. l'homme le plus haï de Montréal, est aussi son plus grand fantôme. Une chose reste sûre. Pierre-Yves Beaudoin n'est pas un concept. Il existe réellement. Contacté pour lui laisser la chance de s'exprimer, il a accusé réception de notre demande sans toutefois y donner suite. Une chemise blanche et des menottes. Belle histoire. Un des agents de sécurité qui a participé à notre éviction m'a écrit pour s'excuser, m'annonce Pascal au téléphone, l'air assez ému. Il a dit que ça faisait des années qu'il nous cherchait et qu'il avait ça sur le cœur, ajoute-t-il, avant de me donner spontanément ses coordonnées pour que je puisse recueillir sa version de ce qui s'est déroulé ce fameux 31 juillet 2016. Des informations dont je n'ai finalement jamais pu faire usage, Andrew m'ayant déjà envoyé un message juste avant. Après 8 ans de recherche, Andrew retrouve Pascal sur Facebook, le lendemain de la fermeture du cabaret La Tulipe. « Salut Pascal, je me nomme Andrew. Lors de l'éviction de la coop, j'étais un des agents de sécurité qui avait été engagé. Ça fait plusieurs années que je vous cherche, afin de m'excuser. L'article sur l'éviction est sorti récemment suite à la fermeture du théâtre et j'ai pu trouver quelqu'un pour me mettre en contact. Alors voilà, je suis profondément désolé. » S'il ne veut pas divulguer plus d'informations personnelles que celles qui sont déjà disponibles, c'est parce que les événements de 2016 lui ont donné envie de militer pour les droits des locataires, ce qui vient avec son lot cyclique de harcèlement. Mais ce témoignage brûle en lui depuis plusieurs années, n'attendant qu'à être libéré. Je me suis dit, j'ai participé à ça, moi, tabarnak. Cette entrevue, c'est aussi une façon d'essayer de me racheter. Moi, à la base, je viens de la rue, annonce d'emblée Andrew. Une seconde chance s'offre à lui en 2012 par le biais d'un héritage que lui laisse son grand-père. L'argent lui permet de s'inscrire à une formation d'agent de sécurité pour une entreprise montréalaise privée et ce dernier se trouve chanceux de pouvoir enfin accéder à une certaine qualité de vie. Et puis, un matin ensoleillé du mois de juillet 2016, tout bascule. Avec 2 de mes collègues, on nous a envoyés à une adresse en nous vendant ça comme étant un contrat d'une très grande importance qui changera notre carrière et nous fera connaître en tant qu'agent de sécurité, se souvient Andrew. On se sentait valorisé d'aller là-bas. On se disait qu'il nous faisait confiance, qu'on était bon, poursuit-il. Pas d'uniforme, les informe-t-on. C'est donc avec une chemise blanche, un pantalon de sécurité et une paire de menottes que tous 3 se rendent à la coop sur Généreux, cet ancien entrepôt à costumes du cabaret La Tulipe, dans lequel une 12aine de locataires se partageaient 2 étages dans un esprit de collectivité. Ça faisait des années qu'on était là, rappelle Pascal, précisant même que les premiers locataires avaient la bénédiction de Gilles La Tulipe, fondateur et directeur du cabaret. Il a pris sa retraite et il était content qu'on prenne l'espace. Quand il est décédé, son fils Olivier a hérité du bâtiment et l'a vendu à Pierre-Yves Beaudoin, poursuit-il. Ce même homme qui, selon Andrew, les aurait accueillis sur place en dépeignant la coop sur Généreux comme un groupe de squatteurs illégaux, vandalisant le bien qu'ils venaient d'acquérir et nécessitant leur expulsion au plus vite. Et nous, on l'a cru. On était même fâchés contre ces personnes qui auraient abîmé le logement, relate Andrew. Vous écoutez, quand évincer les voisins du cabaret La Tulipe était le contrat du siècle, un texte de Malia Kunku, paru le 27 septembre 2024 dans Urbania. Le terrible déclic. À quelques pas de là, les principaux intéressés profitent du soleil dans un parc et ne se doutent de rien, pas même du fait qu'ils sont en train de partager leur tout dernier moment en tant que communauté. Pourquoi se douter de quoi que ce soit? 3 mois plus tôt, ce même propriétaire venait de se présenter à eux comme quelqu'un de très ouvert et très chill, selon les souvenirs de Pascal. Il disait « Je connais ça, la vie de bohème. Je suis toujours en Thaïlande. Mon rêve, ce serait d'avoir plusieurs propriétés et assez de passive income pour vivre sans travailler », aurait-il expliqué aux locataires. Il nous assurait que rien n'allait changer, qu'il aimait qu'on soit là, ajoute-t-il. Mais 3 mois plus tard, il les évinçait, vraisemblablement sans préavis. Pour attirer les derniers locataires profitant encore de leur matinée dans l'appartement, Pascal raconte que Pierre-Yves Baudouin aurait prétexté vouloir leur parler brièvement à l'extérieur. Et quand ses locataires sont arrivés dehors, des agents de sécurité leur ont bloqué la porte. Puis, une fois qu'il n'y avait plus personne, d'autres personnes sont venues prendre nos affaires et les ont mises dans la rue, poursuit Pascal. Le ton serait ensuite monté, notamment entre l'un des 3 agents et une locataire, Sabrina, dont Andrew dit être encore frappé par son courage. Nos instructions étaient d'empêcher quiconque de rentrer dans l'édifice, sauf les gars de déménagement. Normalement, personne ne devait être là, mais une jeune personne habillée de bleu y était. Ensuite, une personne portant la barbe et un t-shirt blanc est arrivée et un des agents s'est pogné avec lui, brisant la cage à lapins. Selon Andrew, l'un des 3 agents aurait usé excessivement de sa force, abîmant la cage à lapins de Sabrina. Elle a commencé à nous expliquer que c'était leur logement, qu'on n'avait pas le droit de les virer, que c'était illégal, énumère l'agent qui, sur les photos prises par les locataires au moment de leur éviction, apparaît de plus en plus en retrait. On me voit regarder partout, ne plus comprendre ce qui se passe et me dire « What the fuck? C'est illégal! » Certaines de ces photos figurent dans l'article du Journal de Montréal ayant relayé les événements quelques jours plus tard. Dans ce texte, la journaliste explique qu'une fois sur place, son équipe et elle auraient été témoins d'un appartement propre bien loin des 100 000 $ de dommages estimés par Pierre-Yves Baudouin, également présent au moment de leur visite. De plus en plus confus, Andrew et l'un de ses collègues se seraient décidés à appeler leur patron en urgence, chose qu'ils ont rapidement regrettée. Quand il nous a dit « On vous paye pour que vous soyez là. Finissez le contrat si vous ne voulez pas perdre votre job. » J'ai compris que quelque chose n'allait pas, explique Andrew, à présent certain de s'être fait manipuler. On a vite remarqué que c'était pas legit. On a essayé de quitter, mais nous avions été menacés de perdre nos jobs. Je sortais tout juste de la rue, j'étais jeune. J'avais peur. Ils ne nous ont pas choisis parce qu'on était bons, mais parce qu'on avait le plus à perdre, réalise-t-il. L'ombre d'un début. Une semaine plus tard, son patron le vire pour insubordination à l'issue du contrat qui s'est pourtant déroulé sans embûche. Peu de temps après, il apprend le licenciement de ses 2 autres collègues pour le même motif et comprend que son patron cherchait à étouffer l'affaire. La semaine suivante, la compagnie a coupé tout lien avec l'événement et nous a convoqués pour nous mettre dehors, un après l'autre, pour insubordination. Est-ce que mon boss me mentait ou est-ce qu'il s'est fait bullshiter lui aussi? Se demande-t-il encore. Si la réponse lui importe maintenant peu, une question bien plus importante le préoccupe depuis 2016. Que s'est-il passé après cette éviction? À quoi ressemble la vie de ses locataires à présent? Je repartageais l'article en demandant si quelqu'un avait le contact d'un des locataires, mais sans préciser que j'avais été l'un des agents de sécurité, indique-t-il. Andrew l'ignore encore, mais peu d'entre eux ont connu une fin heureuse, comme me l'apprend Pascal. Un locataire de 70 ans est retourné dans sa voiture et un autre jeune de la DPJ n'a plus jamais été revu, annonce-t-il avec tristesse. Quant à Pascal, pas moins de 3 propriétaires auraient tenté de l'évincer de son logement suivant. Aujourd'hui encore, celui qui ne vit plus à Montréal, vivrait ce continuel bras de fer. Et puis, le 23 septembre 2024, la fermeture du cabaret La Tulipe vient changer la donne, le nom de Pierre-Yves Beaudoin ressurgissant des limbes pour être crucifié sur l'avenue Papineau à coups de casseroles et de jams de saxophone. Quelques heures après la nouvelle, Pascal ressent le besoin de lancer dans l'univers son témoignage suite aux événements de 2016 et, mercredi matin, ces mots ont finalement atterri dans l'algorithme d'Andrew qui n'en croit pas sa chance. Je lui ai répondu « Fun fact, je faisais partie des agents de sécurité à ce moment-là et puis c'est ici que tout a commencé », révèle-t-il, soulagé. C'était « Quand évincer les voisins du cabaret La Tulipe était le contrat du siècle », un texte de Malia Kunku, paru le 27 septembre 2024 dans Urbania.
The Queen of My Dreams, un premier long-métrage pour la Reine du Cour. Une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Née à London, en Ontario, Fazia Mirza grandit à Sydney, en Nouvelle-Écosse, dans une famille pakistanaise de confession musulmane, avant de déménager à Chicago, où elle y obtient un diplôme de droit. Ayant également étudié l'anglais et les sciences politiques à l'Indiana University à Bloomington, elle pratiquera le droit pendant 2 ans, avant de se tourner vers une carrière d'actrice. Elle entreprend ici divers projets, surtout à teneur LGBT, tant devant que derrière la caméra, dont les web-séries Camcardation et Brown Girl Problems, le scénario du film Signature Move, le court documentaire « Two Lesbians in Search of Allah » et aujourd'hui elle signe son premier long-métrage « The Queen of My Dreams » à titre de réalisatrice. Fazia avoue qu'elle n'aurait jamais pensé faire des films lorsqu'elle était à l'école de droit. Elle se demandait plutôt comment elle allait graduer, explique-t-elle qui préfère maintenant réaliser des films et s'engager un avocat au besoin. The Queen of My Dreams est basé sur votre court-métrage du même nom que vous avez réalisé et co-écrit en 2012. Comment s'est passé le passage d'un film de 3 minutes à 1h30? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Quand j'ai fait le court-métrage, j'étais davantage devant la caméra en tant qu'actrice et j'écrivais, mais je n'avais pas l'ambition de réaliser à l'époque. Un ami à moi, Ryan Logan, m'a offert de m'aider à en faire un court-métrage. Donc, l'aventure du long-métrage fut fortuite. J'ai fait beaucoup de projets d'écriture, et en tant qu'actrice, et même un one-person show inspiré du court-métrage. Et par la suite, j'ai voulu l'adapter en long-métrage, et ça a été plutôt organique comme processus. J'ai cherché pendant 2 ans une personne pour le réaliser, et j'ai finalement décidé de le faire moi-même. Je ne savais pas si c'était une bénédiction ou un fardeau jusqu'à maintenant. Là, je peux dire que c'est une bénédiction. Avant de tourner The Queen of My Dream, j'ai réalisé en amont 6 autres courts-métrages, donc ça m'a vraiment ouvert la voie et permis d'apprendre et de grandir. Au début du film, Azra dit qu'elle adore sa mère et qu'elle a essayé d'être comme sa mère, mais ce n'est pas le cas. Pendant tout le film, on sent que c'est une phrase sincère. Est-ce lié d'une manière ou d'une autre à ta propre vie? C'est un peu de l'autofiction. Je suis d'origine pakistanaise et j'ai grandi en Nouvelle-Écosse. Je me suis toujours inspiré des expériences de vie. Mais en tant qu'écrivaine, j'ai vraiment trouvé ma voie lorsque j'ai permis au film d'entrer dans la fiction. Par exemple, toute la section dédiée aux années 60 est une fantaisie. Il y a 2 personnages inspirés par mes parents, mais également une mémoire et une histoire collective. Certaines histoires sont tirées des actualités, Par exemple, lorsque les Beatles sont venus au Pakistan pour leur tournée et que Paul McCartney a dû aller aux toilettes au terminal et qu'une foule s'y est amassée. Je voulais que ce film procure un sentiment de réalité. Même si les faits sur ma famille ne sont pas tous vrais, il y a des vérités à propos de notre histoire. Dans le film, la direction artistique est particulièrement prenante et il y a beaucoup de travail puisque le film s'étend sur plusieurs pays et décennies, années 60, 80 et aujourd'hui. C'était un beau défi? Ce fut un défi, oui, car nous avions un petit budget et parfois nous faisions deux décennies dans la même journée, les années 60 le matin et les années 80 le soir. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de communication et de collaboration de la part de tous les départements, des costumes au décor, en passant par le maquillage. Pour la direction artistique et l'esthétique visuelle, plus globalement, je voulais être capable de voir les choses à travers plusieurs époques, pour évoquer le souvenir et en créer à travers le film, car c'est aussi un film mémoire. Justement, la cinématographie est inventive, comme ces images panoramiques 360 degrés avec ses scènes de cartes postales et ses transitions entre des lieux, de Karachi, Pakistan, à Sydney, Nouvelle-Écosse. Était-ce une façon de montrer ces villes telles que vous les avez vécues? L'esthétique et l'œil de notre directeur photo, Matt Irwin, est incroyable. Et je crois qu'il n'a pas assez de crédit pour son travail. Lorsque nous tournions le film, ces moments cartes postales, comme tu les nommes, évoquent la mémoire, à la manière de photographie. Parfois, lorsqu'on voyage, on ne se rappelle que d'un moment, d'une image, et je voulais capturer ça. Pour élever le film, j'ai décidé d'y aller avec cette esthétique du moment, dans la forme du slideshow. Il y a le sentiment de nostalgie et je voulais que les gens le ressentent. Dans le film, on voit Azra avoir une relation avec sa petite amie Rachel. Et après, on la voit tenter d'embrasser une autre fille à 12 ans. Outre ces représentations du lesbianisme, le film est plus éloquent sur la relation entre Azra et sa mère. Thématiquement, le lesbianisme devient pratiquement une toile de fond des traditions. Comment avez-vous abordé la représentation de l'homosexualité? Le premier film que j'ai écrit, Signature Move, avait des thèmes similaires. Une avocate d'origine pakistanaise secrètement en couple avec une femme et une relation complexe avec sa mère. C'était plus une histoire de coming out. Je ne voulais pas reproduire la même histoire, mais je voulais montrer que ce que nous sommes a un impact sur tout. D'ailleurs, je voulais montrer que lorsque Azra et sa mère étaient plus jeunes, elles ont probablement entamé leur parcours divergent sur la même note. Ensuite, il y a des écarts, des non-dits, comme dans toute relation, et on peut même combler le vide avec notre propre histoire. Ceci rend possible l'identification étant donné le caractère universel de l'histoire. Je voulais créer une histoire mère-fille à saveur queer. Être lesbienne et musulmane sont deux identités aux antipodes, car la religion musulmane condamne l'homosexualité. Vous êtes née et avez grandi au Canada, mais dans une famille musulmane. Comment s'est passée votre enfance en Nouvelle-Écosse? Ces deux identités étaient-elles en conflit, comme dans le film? Personnellement, j'ai fait mon coming out plus tard dans ma vie. Donc, je n'ai pas eu l'expérience que la jeune Azra a dans le film. Et par la suite, je suis parti du Canada pour vivre à Chicago. Cela dit, je dirais que vivre en tant que personne de l'Asie du Sud dans le très blanc Canada était un défi. Ceci a façonné ma façon de grandir et j'ai nécessairement infusé beaucoup de ma personnalité franche, de mes identités et du fait d'être queer et pakistanaise dans mon travail et dans mes films, et cela ne pose pas de conflit. En tant que réalisatrice queer musulmane, avez-vous du mal à vous faire une place dans le monde masculin de la réalisation de films? Ressentez-vous des changements? En tant que réalisatrice, je sens que j'émerge encore dans cet espace, mais en tant que femme d'un groupe sous-représenté, il y a définitivement plus d'opportunités maintenant. Membre de la Directors Guild of Canada et America, je suis très excité d'amener mon point de vue sur le plateau de divers films, séries télé, etc. Je veux faire partie d'un continuum de changement. Je ne sais pas ce qui se passe au top, mais je crois que nous avons une opportunité, particulièrement en tant que réalisateur, sur une base quotidienne lorsque nous sommes sur les plateaux, de nous préoccuper de la façon dont on traite les gens. C'est primordial. That matters. Toujours traiter les gens avec la gentillesse et le respect qu'ils méritent, de façon juste et égale. C'est mon genre de leadership et c'est de cette façon que j'espère pouvoir faire partie du changement. Le film est notamment produit par Andrea Wilson-Mirza, également votre partenaire de vie. Comment se passe la conciliation travail-famille? Honnêtement, ma femme productrice et moi-même avons un grand bagage d'amour et de respect mutuel. Nos collaborations commencent et se terminent par l'amour, ce qui nous mène à donner le meilleur de nous-mêmes. Tu sais que tu es dans une relation qui fonctionne quand tu veux le meilleur pour l'autre personne, espérant qu'elle te rende meilleur au passage. Andrea me rend meilleur. Donc ce film fut une excellente collaboration et rien de tout ça n'aurait pu arriver sans elle. Laissez-moi vous dire que tout le monde a besoin d'une Andrea dans sa vie. Des projets à venir avec Andrea? Nous avons notre compagnie basée à Toronto et à Los Angeles, qui se nomme Baby Doll Productions. Nous produisons mon prochain long-métrage, une comédie présentement en développement, et avons plusieurs autres projets en cours. Notamment, nous sommes producteurs exécutifs sur 4 courts-métrages, car notre but est aussi d'aider les autres à faire avancer leurs projets et missions artistiques. Cet automne, il y aura la sortie d'un documentaire que nous produisons, Survivor Made, qui suit un groupe de survivants de violences basées sur le genre, alors qu'ils défient tous les pronostics et créent leur propre entreprise à Los Angeles. Je suis excité pour tout ce qui s'en vient. Comme je disais, trouvez votre Andrea Wilson-Mirza. C'était The Queen of My Dreams, un premier long-métrage pour la Reine du Cours. Une entrevue réalisée par Julie Vaillancourt, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue.